Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. John Ngombwa. Il est journaliste et il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa. Bonjour John Ngombwa. Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Amama Mkongomani. Bonjour Madame Nelly Mbangu Lumbulumbu.
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio
Okapi. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Bonjour Monsieur Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guimaté, bonjour tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Ngombwa, journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa. Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, elle est membre de la société civile du Nord Kivu. Elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes, DFJ en sigle, et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Amama Mkongomani. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Au menu de cette émission, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, met en garde contre la campagne électorale précoce. Projet de fabrication des batteries et véhicules électriques RDC Zambie, il faut 30 milliards pour mettre en œuvre ces projets. Et enfin, situation des déplacés internes dans les sites des déplacés en RDC, et plus particulièrement les femmes et les enfants. Mais nous allons commencer par mettre un commentaire au sujet de l'expiration de l'ultimatum du ministre des Affaires étrangères à l'endroit du M23. En effet, après l'expiration dimanche 24 septembre de l'ultimatum lancé la semaine dernière par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères au M23 de se retirer des entités qu'il occupe au Nord Kivu, la situation n'a pas changé sur les différents fronts. Les rebelles du M23 n'ont montré aucun signe de vouloir se retirer des zones qu'ils occupent. Au contraire, le Rwanda continue de renforcer ses troupes au Nord Kivu, a déploré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Christophe Lutundula a affirmé que le processus du règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC est bloqué par le Rwanda et le M23. John Ngombwa, quelle est votre lecture de cette situation?
Ce que je veux dire, c'est que le Rwanda et le M23 ne comprennent que les rapports de force. Et visiblement, les rapports de force sur terrain n'est pas en faveur de la RDC et des FARDC. Et donc, sans peut-être faire de l'exagération, il y a un candidat président de la République, Constant Moutamba, pour ne pas le citer, qui a dit que dans son programme, l'un des objectifs, c'est d'arrêter Paul Kagame. Je crois que Paul Kagame a besoin d'un discours aussi extrémiste que son propre comportement. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut aller de la manière douce, diplomatique, parce que à la fin des comptes, on se rend compte qu'on aura perdu beaucoup de temps et certainement des vies humaines dans ces processus ici, en suivant les chemins diplomatiques. Je crois qu'il nous faut muscler notre approche et laisser le langage que Kagame et les M23 comprennent, c'est le langage des armes. Point barre.
Merci. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, on a l'impression que les rebelles du M23 ont profité de l'ultimatum lancé par les VPM Lutundula pour renforcer davantage leur position sur les différents fronts. Et à votre avis, cet ultimatum était-il opportun en ces moments-ci où on sait que les FARDC observent depuis un certain moment un cessez-le-feu conformément à la volonté des chefs d'État de l'EAC? Est-ce que vous pensez que cet ultimatum du vice-premier ministre Lutundula était opportun en ces moments-ci?
Ah, merci beaucoup pour la question, Guimaté. Mais comme vous le savez, les rebelles de M23 ne peuvent que avoir une position aussi, comme on peut le penser, une position aussi tranchante, parce que comme vous le savez, à Goma ici, on sait que les rebelles de M23 n'attendent que les actions. Donc nous voulons plus voir les actions. Les discours, ça, bon, on peut faire un discours, comme on dit, tendancieux, parce que nous ne voyons pas ce discours comme un discours qui peut apporter la solution. La solution que nous attendons, ce sont plus des actions qui doivent être menées sur le terrain, amener le M23 à comprendre que l'État congolais est une nation comme toutes les autres nations qui doit être respectée de part de ses droits, mais aussi de part de ses règles. Mais nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui est en fait le discours que le ministre a prononcé ne peut rien résoudre. Au contraire, ce discours-là a mis en fait le M23 dans une position confortable, parce que là nous voyons maintenant le M23 qui est en train de consolider ses bases, et nous pensons qu'il faudrait plus des actions que des discours. Et nous attendons voir, parce que pour nous, nous refusons toute négociation, comme on l'a dit. La société civile du Nord Kivu n'est pas d'accord avec les négociations qui peuvent avoir lieu entre le M23 et le gouvernement congolais. Et donc, pour nous, nous pensons qu'il faudrait plus engager des actions sur le terrain, sans même faire des discours. Donc, vous n'avez pas besoin de défendre votre nation à travers des discours. Donc, il faudrait plus avoir des actions qui vont plus parler d'elles-mêmes, et ça sera, je crois, une des solutions que nous attendons par notre gouvernement.
Merci, Louis Magloire Kimayou. C'est depuis plusieurs mois que le gouvernement congolais, lors des différents conseils des ministres hebdomadaires, dénonce les renforcements du M23. Et à votre avis, que viseraient ces rebelles du M23 à travers cette stratégie qui consiste à renforcer leur position?
Moi, je crois qu'il y a un besoin aujourd'hui, et ce qui est délicat dans la gestion de la crise à l'est de la RDC, c'est que nous sommes en période préélectorale actuellement et que les discours ne sont pas toujours très rationnels sur la manière de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays qui est meurtrie depuis pratiquement 30 ans aujourd'hui. Or, il faut beaucoup de sérénité dans la résolution de ce type de problème-là. La RDC aujourd'hui, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, est un pays très important pour le développement du continent africain, au sein de la francophonie d'abord. On a vu les jeux de la francophonie qui se sont tenus. Ensuite, au sein de l'Afrique centrale francophone, parce que c'est le Nigeria de l'Afrique centrale. Et si cette locomotive reste longtemps enrayée, en panne, comme c'est le cas, c'est la croissance de l'ensemble du continent et de la zone qui est impactée. Et donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que, sur le plan concret, on sorte des discours pour entrer dans une action qui porte des résultats. Tant qu'on est face à des rébellions qui veulent le pouvoir, c'est presque facile à régler, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest. Mais là, avec le M23, on a affaire à des gens qui ne demandent pas le pouvoir, mais qui insécurisent l'ensemble des populations. Et donc, face à cela, il faut prendre à témoin à la fois la communauté internationale, mais également les voisins, pour arriver à obtenir un résultat qui ne soit pas un résultat au rabais, mais un résultat pérenne, qui dure au-delà d'une période de 2 ans ou de 6 mois. Or, pour le moment, je ne vois ni les autorités congolaises aller sur ce chemin, ni les autorités rwandaises qui sont mises à l'index en train d'être motivées pour trouver une solution durable et pérenne. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve la sérénité qu'il faut pour résoudre ce problème et que les partenaires soient de bonne foi pour arriver à des résultats. Le M23 est là pour exploiter les réserves minières de cette zone-là. Il ne faut pas se voiler la face. Et ils le font pour des compagnies qui sont à l'extérieur, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Belgique ou en Amérique. Ce sont des intérêts qui sont à l'extérieur. Et à partir du moment où on ne peut pas atteindre ces intérêts-là, il faudrait que l'on arrive au moins sur le plan panafricain ou est-africain à trouver une solution qui évite que la région continue d'être pliée et que les populations de ces régions-là continuent de subir le martyr.
Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'à travers cette stratégie, le M23 chercherait à faire chanter le gouvernement congolais afin que celui-ci accepte de négocier directement avec lui, Louis Magloire Kébayou?
Non, je crois que le M23 a, de mon point de vue, toujours été dans la position de la négociation, mais est-ce qu'elle négocie sur des bases qui sont sincères? Est-ce qu'elle négocie sur des bases qui vont dans l'intérêt des populations qui habitent dans la zone de l'Est de la RDC? J'en suis pas certain. Et à partir du moment où il y a un doute là-dessus, pour moi, la RDC devrait se concentrer sur la meilleure manière de garantir la sécurité de ces populations, que ce soit par la force ou par la négociation, par la concision. Pour moi, il faut aujourd'hui trouver des moyens sans tenir compte forcément des positions qui pourraient plaire ou déplaire à une des rébellions existant sur le terrain.
John Ngomboa, au vu de la situation qui prévaut dans la partie est du pays, plus précisément au nord Kivu, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les jours et les mois à venir?
Moi, je crois qu'il faut s'attendre à une dérive sécuritaire, hein, parce que vous remarquerez que le M23 choisit bien ce moment, et comme nous nous approchons des élections en RDC, il faudrait aussi s'attendre que ces groupes puissent allumer les feux en commençant des attaques, ce qu'ils ont déjà fait. Alors, ils vont profiter de ces moments ici pour essayer de prendre davantage du terrain, et ne soyons pas surpris que, par exemple, ils essaient de prendre Goma, comme ça a été toujours leur rêve. Donc moi, je me dis qu'il faut que nous soyons très prudents. Le M23, il a déjà un plan bien préparé, et il a des correspondants en RDC dans les institutions congolaises, et nous ne devons pas être distraits. Et pour moi, la meilleure défense, comme on dit, c'est l'attaque. Il faut attaquer le M23, sinon on risque de s'exposer à une attaque de leur part dans pas longtemps.
Merci, on prend une petite pause avec Le Monde est fou, Le Monde est beau de Julio Iglesias, et on revient juste après.
Un enfant parle doucement au soleil pâle de janvier. Mon cœur cigale va chantant à l'envers du calendrier. De rire le tulle du brouillard, la vie de jour est l'inconnue. La vie circule sans histoire dans les grands lignes des avenirs. Les mondes fous, le monde est beau, un rendez-vous toujours nouveau, une symphonie inachevée qu'aucun génie n'a pu rêver. Le monde est beau, le monde est fou, il promet trop pour donner tout. On sait qu'au bout c'est les rideaux, mais on s'en fout, le monde est beau. Je te regarde, tu souris, te fais bavarde avec la nuit. Ce soir le diable a des beaux yeux, on lui donnerait les bons dieux. Moi je voyage sur ta peau, au fil de toi, au fil de l'eau. J'ai pris l'amour, les seuls navires où l'on naufrage par plaisir. Le monde est fou, le monde est beau, un rendez-vous toujours nouveau, une symphonie inachevée qu'aucun génie n'a pu rêver.
C'était Le Monde est fou, Le Monde est beau de Julio Iglesias, ce célèbre auteur, compositeur et chanteur de charme espagnol. On rappelle que le 23 septembre dernier, Julio Iglesias a totalisé 80 ans d'âge. On revient à l'actualité de cette semaine. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a lancé mardi 26 septembre une mise en garde contre les médias qui s'adonnent à la campagne électorale précoce en RDC. Dans son communiqué publié le même mardi, l'organe de régulation des médias en RDC constate avec regret une montée en flèche d'une campagne électorale précoce dans les médias depuis la publication de la liste définitive des candidats à la députation nationale. Le bureau du CESAC a demandé aux médias et aux journalistes notamment de respecter la loi et les processus électoraux en lui-même. Il a également rappelé que la date du début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI n'est pas encore arrivée. John Gumba, vous êtes journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée mettant les Kinshasa. Vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Oui, parce qu'étant professionnel des médias, je me sens aussi interpellé par cette question, surtout par le rôle que les professionnels des médias vont devoir jouer pendant cette campagne. Nous savons que la campagne électorale cristallise les intérêts politiques et la plupart des temps contradictoires, ce qui est démocratique. Mais maintenant, l'amplification des intérêts particuliers atteint parfois des paroxysmes avec les professionnels des médias s'ils ne savent pas bien s'y prendre et peuvent déboucher sur un réel conflit. Et donc, voir déjà bien avant le terme, les médias sont envahis et il faut avouer que les médias ne vont pas les chercher. La plupart du temps, ce sont les acteurs politiques qui viennent solliciter. Bien. Les médias sont déjà envahis. Bon, certes, quelque part, c'est un signe qui indique que la démocratie se porte bien, mais aussi, à mon sens, ça nous interpelle. J'ai salué la décision du CESAC, mais je me dis qu'aujourd'hui, le CESAC ne devrait pas se limiter qu'aux médias traditionnels, les télévisions, les radios, parce que aujourd'hui, en partie, la communication, surtout la communication politique, elle est faite sur les réseaux sociaux. Et carrément, si vous allez sur Twitter ou X actuellement, vous allez voir que la campagne, elle a déjà commencé. Elle est même plus dure que dans les médias traditionnels, parce que avec l'attribution des numéros des campagnes, eh bien, il y a des photos, des portraits qui portent des numéros des campagnes avec les messages de propagande électorale. Et ça, c'est sur le Twitter, actuellement X, comme on l'appelle. Et ne parlons pas de Facebook, Instagram et d'autres. Je peux dire que aujourd'hui, dans la zone urbaine de la RDC, les gens communiquent beaucoup plus par les médias sociaux que par les médias traditionnels. Il faut peut-être aller dans l'arrière-pays où vous n'avez pas la connexion Internet pour trouver que les médias traditionnels ont encore la cause. Mais sinon, actuellement, moi je suis professionnel des médias, j'ai remarqué que les informations, avant que nous n'en parlions, par exemple à la télévision, eh bien, elles auraient déjà été relayées préalablement par les réseaux sociaux. Et donc ça demeure encore une tâche à laquelle le CESAC irait s'atteler pour pouvoir voir dans quelle mesure réglementer, parce que sinon, elle n'aura pas fait grand-chose que de s'arrêter aux médias traditionnels.
Oui, John Gumba, est-il facile de faire respecter une telle mesure dans ces contextes préélectoraux où tout le monde, donc quand je parle de tout le monde, c'est tous les hommes politiques, veulent faire parler d'eux, notamment à travers les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est facile de faire respecter une telle mesure dans un tel contexte?
Non, effectivement, c'est difficile, mais il y a une dimension éthique dans les hommes d'État ou ceux qui sont appelés à gouverner d'une manière ou d'une autre la communauté, la nation. C'est devraient être des gens qui respectent la loi. Mais quand ils sont les premiers à la violer, on se pose bien la question de savoir qui nous dirige, parce que quand je vous parle aujourd'hui de Twitter et autres, eh bien, c'est notamment les gens qui sont aux affaires, les dirigeants actuels, et bien sûr aussi ceux de l'opposition actuelle, ne se gênent pas, mais ils sont déjà en campagne. Et donc, ça pose quand même un problème sur l'éthique, sur notre capacité à nous de respecter les lois que nous-mêmes nous mettons en place. Alors, d'une part, et d'autre part, il y a aussi grand temps que le CESAC, j'imagine qu'il doit y avoir une division, une section du CESAC qui traite de cette question. Tous les médias qui ne sont pas logés en RDC doivent suivre une réglementation. Les médias traditionnels, mais aussi les nouveaux médias. Par exemple, le CESAC peut écrire à Twitter ou X, peut écrire à Facebook, je crois qu'ils sont tous logés à la même enseigne aujourd'hui, pour signaler, et le CESAC, à défaut même d'écrire, ils peuvent signaler des contenus sur les réseaux sociaux, et en expliquant, et Twitter, une fois qu'un contenu délictueux est signalé, Twitter prend le temps de le supprimer. Donc, ça c'est au niveau de la veille médiatique qui doit être faite au niveau du CESAC, et j'aimerais bien qu'ils puissent avoir un regard de ce côté-là, parce que aujourd'hui, les choses se passent d'abord sur les réseaux sociaux avant de venir dans les médias traditionnels.
Merci, Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes présidente de l'association Dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti à Mama Mkongomani. Quel est votre point de vue par rapport à ces phénomènes?
Merci beaucoup, Guy Maté. Le premier problème que nous avons observé, et là je vais dire l'observation a été faite dans toute la République, c'est que il n'y a pas que la question d'utilisation des réseaux sociaux ou alors des médias, comme on peut le dire, la radio, la télé, pour battre campagne en avance. Mais nous avons vu aussi, presque dans tous les pays, on voit des affiches de candidats partout, affichées partout. Donc on se pose la question, c'est ça qui était, vous voyez tout cela, ou alors c'est un réveil tardif, comme on peut le dire. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans le cadre de cette campagne qui ne sont pas pris en compte par la CESAC. La CESAC devrait déjà commencer à sensibiliser les communautés et c'est ce qui manque. Guy Maté, vous allez, par exemple, retourner en arrière pour voir ce qui s'est passé. En 2006, moi, j'étais actrice d'accompagnement du processus électoral parce que j'étais observatrice électorale. J'ai même accompagné un processus électoral d'observation. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a des formations qui ont été organisées où on appelait les candidats pour leur parler de ce qu'ils doivent se faire et ce qu'ils ne doivent pas se faire. Mais maintenant, là, il y a presque une absence de séances de sensibilisation. On ne sent pas vraiment la CENI aussi organiser des réunions pour parler de la loi électorale. La loi électorale est restée comme une sorte de une lettre morte, on dirait. On met dans les tiroirs, donc après avoir juste élaboré les listes électorales, on s'est dit, bon, c'est tout. Les autres aspects liés au processus électoral ne sont pas abordés. Et là, je vais aussi dire par rapport à la sanction. La sanction aujourd'hui, et s'il faut retourner, comme je l'ai dit en arrière, vous allez observer qu'il n'y a aucune personne qui a déjà été condamnée par le fait d'avoir utilisé soit le média ou en avance, ou alors battre campagne en avance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été sanctionné ou alors traduit en justice pour le fait ou alors être sanctionné par CESAC pour le fait d'avoir utilisé ou battre campagne à l'avance. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc on sent qu'on est en train de nager dans un contexte où tout le monde peut faire tout ce qu'il pense dans cette période. C'est une période assez délicate où c'est difficile de pouvoir gérer, c'est vrai. Je reconnais, comme le prédécesseur vient de le dire, c'est difficile de gérer cette période, mais nous pensons qu'il y a quand même lieu de prendre des règles claires, de parler par exemple avec les leaders des partis politiques pour leur dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas commencer à battre campagne avant, il faut descendre par exemple à Kinshasa. Parce que je reviens de Kinshasa il n'y a pas longtemps. Vous allez voir que c'est presque toute la ville qui est remplie des affiches des candidats avec des messages qui en fait des messages de mobilisation électorale pour dire nous sommes là, moi candidat tel, je vais faire ceci ou cela. Donc il y a lieu de pouvoir vraiment prendre des mesures coriace pour interdire à tous ces gens de battre campagne avant le temps. On bat campagne, on sait dans le délai, mais on sait aussi qu'il y a aussi une difficulté, comme je viens de le dire, comment on fait pour amener alors les gens de connaître les candidats, de faire cette campagne, comme on dit, officielle. Donc, il faudrait voir des techniques, informer à tous ces gens, quelles sont les techniques pour ne pas déranger les gens avant la campagne, Parce que moi, je me dis alors à la campagne, qu'est-ce qu'ils feront? Si déjà ils ont commencé à battre campagne avant, qu'est-ce qu'ils feront pendant la campagne? Voilà un peu Guy Maté, mes idées par rapport à ça. Donc, il faut instaurer en tout cas la sanction et surtout parler avec les leaders des partis politiques par rapport à ce qui se passe. Il faut des séances de sensibilisation, des vulgarisations de la loi électorale pour que chacun sache que nous ne pouvons pas. Il y a tel aspect du processus qui ne peut pas être fait en cette période-ci. Merci.
Merci Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais. Vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Dans la manière d'agir de l'homme politique congolais en particulier et africain en général, il y a cette habitude qui consiste à se faire accompagner de ses militants lors de certaines manifestations politiques pour notamment, n'est-ce pas, afficher le soutien dont il bénéficie de la part de la population, et cela est médiatisé. Est-il facile aujourd'hui d'établir une distinction entre la campagne électorale précoce proprement dite et cette attitude qui consiste, n'est-ce pas, à faire une sorte de démonstration de force?
Possible d'établir cette distinction parce que il faut qu'on soit d'accord sur un fait, que la vie politique ne commence pas pendant la campagne électorale. Et elle ne s'arrête pas après la proclamation des résultats. Si on est d'accord là-dessus, on peut comprendre que la vie politique fonctionne à 100% et sans interruption, y compris entre deux et les populations aussi ont intégré le fait que la vie politique ne commence que lors des campagnes électorales et ce n'est que pendant cette période-là qu'on doit avoir une activité politique intense parce que le résultat, il est là, immédiatement. Or, comme on dit dans les adages de chez nous, c'est pas le jour du marché qu'on nourrit sa poule. Il faut le faire régulièrement pour qu'elle arrive en étant bien entretenue, parce que vous y êtes pris suffisamment tôt pour obtenir les bons résultats au bon moment. Or, la plupart de nos politiciens ne l'entendent pas de cette oreille, y compris dans des pays aussi vastes que la République démocratique du Congo, qu'il n'est pas facile de couvrir le temps uniquement d'une campagne électorale. Donc pour moi, aujourd'hui, le travail qui doit être fait est un travail de pédagogie d'abord, pour que l'action politique, l'action des partis politiques ne s'interrompe pas après la proclamation des résultats, et que les partis politiques fassent de l'éducation politique entre deux élections et soient régulièrement au contact de leur population, de leurs militants, pour entretenir cette flamme qu'ils ont allumé au moment de la campagne électorale. D'autre part, je pense que l'instance également qui est chargée de veiller à ce que les règles soient respectées n'est pas là que pour punir. Elle aussi doit intégrer la dimension pédagogie pour que, au moment où elle viendra battre, punir les personnes qui ne respectent pas les règles, tout le monde soit d'accord que même si la règle est ce qu'elle est et que vous la connaissiez ou pas, Vous devez l'appliquer, et si vous ne la respectez pas, vous êtes puni. Il faut quand même faire un effort suffisant pour qu'un maximum de personnes connaissent les règles, les intègrent dans leur fonctionnement, et que le moment venu, quand on sanctionne, cela soit fait au vu, au su de tout le monde, avec l'acceptation de tout le monde. Voilà mon souhait, voilà mon constat, et j'espère que ça vaudra aussi bien pour la RDC que pour d'autres pays.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, c'est vendredi 28 septembre 2023. Cela fait 29 ans, jour pour jour, depuis que nous a quitté Elisabeth Finan, connue sous le nom d'Abeti Masikini, celle qu'on avait surnommée la Tigresse. Pour lui rendre hommage, nous allons écouter un de ses classiques intitulé I Love You, sorti en 1985, et on revient juste après le journal de 8 heures. Thank you.
L'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heures de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur l'expiration de l'ultimatum du ministre des Affaires étrangères à l'endroit du M23. Nous avons également analysé cette problématique de la campagne électorale précoce. Participe à cette émission, John Ngomba, il est journaliste et directeur des informations d'antenne à une télévision privée émettant de Kinshasa. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu et les présidente de l'association Dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Yamama Mkongomani. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Komayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Les résultats préliminaires de l'étude de faisabilité de l'initiative des batteries et véhicules électriques RDC Zambie ont été dévoilés jeudi 21 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, par les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les deux gouvernements dans l'ingénierie financière. Les premiers éléments de l'étude des préfaisabilités de ces projets ont été rendus publics devant les patrons des grandes industries au monde au cours des échanges organisés en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU. La première étude qui vient de sortir nous démontre qu'il faut 30 milliards de dollars américains pour développer ces vastes projets pour capter d'ici 2035-2040 près de 7 000 milliards de dollars, a révélé le ministre congolais de l'industrie Julien Paluku Kaongia. Louis Magloire Kimayou, vous avez souhaité nous parler de cette question. On vous écoute.
Oui, ce thème a retenu mon attention pour une raison simple, c'est que nous sommes dans un pays qui excède ce qu'on appelle les éléphants blancs, ces investissements qui consomment énormément de ressources financières et qui malheureusement ne produisent pas de résultats capables de rembourser les crédits qui ont été contractés et qui pénalisent le développement des pays concernés. Je salue l'initiative en elle-même, c'est-à-dire que j'aurais dû commencer par là, c'est toujours bien d'industrialiser, mais on n'industrialise pas à n'importe quel prix et on ne le fait pas dans n'importe quel ordre. Et dans le cas précis de ce qui se passe entre la Zambie et la RDC, j'ai l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs et que l'on ne mesure même pas à quel point aujourd'hui l'Afrique n'est pas encore capable non seulement de produire des véhicules électriques, mais surtout d'entretenir ces véhicules électriques, parce que l'enjeu n'est pas seulement de produire, c'est d'avoir un marché qui sera capable d'entretenir, et l'entretien des batteries coûte très cher également. La durée de vie des batteries est très limitée. Pour les véhicules, les voitures, elle est de 8 à 10 ans maximum. Au bout de ce nombre d'années-là, il faut changer les batteries. Et je ne vois pas aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat qui est celui des Africains, quelle est la marge de la population qui sera capable de se procurer ce type de véhicule et d'entretenir les véhicules au bout de 8-10 ans en changeant sa batterie, qui coûte très cher régulièrement. Donc pour moi, ce serait le risque qui est encouru ici et celui de créer un éléphant blanc qui ne sera pas capable, qui va non seulement pénaliser le développement du pays, mais qui ne trouvera pas son public dans le marché de consommation, à la fois en RDC, mais dans le reste des pays voisins, qui ne se mettront pas à l'électrique aussi vite, sachant qu'il y a aussi un autre problème fondamental, c'est que au niveau de la fourniture en électricité, recharger les batteries de ces voitures-là, c'est pas comme pour les stations-service que l'on trouve presque, enfin déjà on les trouve pas très régulièrement, à plus forte raison pour les points de ravitaillement en énergie électrique, sachant que nos pays en produisent très peu. Je parlais du barrage d'Inga, et pour cause, c'est un barrage qui aurait pu produire suffisamment d'électricité ou utiliser des véhicules électriques. Or, cette condition n'est pas remplie non plus. Donc pour moi aujourd'hui, il y a le risque de partir beaucoup trop vite à l'abordage dans cette question de production de batteries électriques et de véhicules électriques, parce que, visiblement, toutes les conditions ne sont pas remplies.
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on sait que c'est l'une des conditions, n'est-ce pas, qui est imposée par non seulement les gouvernements du monde, mais aussi par les scientifiques pour réussir cette transition écologique?
Non, mais il y a des conditions qui ne peuvent pas être remplies d'un seul coup, y compris en Europe. On en revient. Avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, on a bien vu que l'approvisionnement en énergie relativement propre, que ce soit le gaz ou le carburant, se raréfie. Et sur le continent africain, on le constate aussi. Mais si vous n'avez pas déjà les énergies fossiles à disposition facilement, et que vous n'avez pas beaucoup d'énergie électrique à disposition, même si on me dit que les énergies renouvelables avec le solaire et l'éolienne peuvent remplir le rôle convenablement, le problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune des conditions qui permet de rendre ces véhicules-là populaires en Afrique. Aucune de ces conditions n'est remplie. Et donc pour moi, procéder de cette manière, c'est aller tout droit vers un échec programmé.
Merci. John Gomboa, vous venez de suivre Luma Gloire Kemayou, qui évoque les conditions nécessaires pour mettre en œuvre ce genre de projet. Vous pensez que les pays comme la RDC aujourd'hui remplissent ces conditions pour arriver, n'est-ce pas, à relever les défis?
Je crois, comme dit plutôt la boutade, que les grands problèmes de la RDC, c'est un problème d'homme, hein, c'est un problème d'homme, mais sinon tout le reste est là. Et pour rebondir sur ces projets, moi je me dis que avant d'aller construire des châteaux en Espagne, on pouvait en construire même ici à Kassangoulou. C'est-à-dire que là, les ministres, il est en train de parler des 10 ans. 10 ans. J'espère que ce n'est pas juste un miroir aux alouettes, parce que nous savons très bien dans nos pays, ici, la durée des régimes politiques et l'essence de l'État, quand les hommes d'État. C'est-à-dire, l'État est juste lié à soi-même. Quand on n'est plus là, eh bien, tout ce qui avait été fait par vous ne sera pas endossé par les précédents. Donc,
Lorsque le ministre fait une projection dans 10 ans, moi je suis bien d'accord, nous devons faire ces genres de projections pour pouvoir nous assurer de notre survie dans 50 ans, 100 ans. Mais s'il y avait des applications dans 1 an, ce serait plus concret. Sinon, ça me paraît vraiment abstrait, quoi. Alors, j'aurais aimé que nous puissions voir comment, à court terme, ce plan-là, il va se mettre en route. Comment et quels peuvent être les dividendes que nous pouvons en tirer maintenant. Ce serait déjà pas mal. Donc, pour moi, ça paraît un peu comme de la science-fiction quand vous projetez 10 ans pour des gens qui, l'espoir des vies, peut-être vous ne savez pas s'ils vont être là demain. Donc, commençons à régler d'abord les choses du quotidien. Après, on peut voir comment s'y régler dans 10 ans.
Oui, John Ngumba, étant donné que l'enjeu que représente un tel projet dont la mise en œuvre nécessite 30 milliards de dollars, l'enjeu est important, qu'est-ce qui serait avantageux pour les États africains? Laisser les privés contrôler seuls ces secteurs ou mettre en place des modèles du genre partenariat public-privé?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, les partenariats public-privés s'imposent de soi. L'État peut être dans le rôle du régulateur ou du soubassement, mais les affaires aujourd'hui, ce sont les privés qui font les affaires. Et l'économie telle qu'elle se présente, c'est vrai, avec les derniers chocs boursiers, on a vu qu'il fallait aussi l'intervention de l'État pour remettre, par exemple, les banques qui étaient en faillite. Il a fallu un financement public pour les remettre sur pied, les banques commerciales privées. Mais de manière générale, l'économie aujourd'hui, l'économie moderne, est tenue par des privés, des multinationales la plupart du temps, mais qu'il faut contrôler. Et c'est là, c'est lorsque on a un État fort, les États forts donnent l'impulsion. Alors, donc, moi je crois que il va falloir d'abord que la RDC devienne un État fort, ce qui n'est pas encore le cas. Aller dans la complexité d'un partenariat africain va déboucher aussi sur des préalables que nous ne saurons pas toujours tenir. Parce que nous avons, par exemple, sur ce qui concerne les frontières au niveau de la SADC, il fallait que tous les pays, par exemple, puissent être aux mêmes normes. Et ce qui n'est pas encore le cas. Il va falloir que ce soit dans une composition avec d'autres États africains. Je crois que la machine sera lourde. À mon sens, il faut que la RDC prenne sur elle de pouvoir d'abord devenir un État fort et 30 milliards, logiquement, ce n'est pas ce que vaut ces pays, il vaut plus que cela. Et ce n'est pas de l'argent qu'on aurait emprunté ni à l'Union africaine, ni à la banque, à la BAD, ni à la Banque mondiale non plus. C'est de l'argent, logiquement, que si nous prenons sérieusement dans ces pays, on peut le faire. Donc moi, je suis pour les publics privés, mais à condition que nous, la RDC, nous soyons un État fort, sinon on va subir tout et son contraire.
Merci, Maître Nelly Mbangulumbulumbu. C'est vrai qu'il faut réunir certaines conditions pour espérer réaliser ce genre de projets comme l'a relevé ici Louis Magloire Kemayou. Mais pendant que nous mettons en exergue nos minéraux stratégiques et que nous mettons beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour développer ces projets, est-ce que les autres à travers le monde ne seraient pas en train de développer d'autres alternatives pour nous contourner?
Exactement. En fait, moi, je me mets aux côtés du gouvernement pour cette question. Je me dis que c'est quand qu'il faut attendre pour commencer un tel projet. Quand, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de défis. Il n'y a pas que ces défis liés plus à l'industrialisation. En République démocratique du Congo, on connaît qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais moi, je me dis que nous pouvons quand même féliciter l'État congolais d'avoir osé penser à avoir, à mettre en œuvre un tel projet, qui est vraiment un projet innovant et qui va permettre à donner de l'emploi à toute cette jeunesse aujourd'hui. Pour moi, je voudrais dire ici que le fait, par exemple, pour l'État de penser à ces projets, c'est déjà un début et nous pouvons qu'encourager, comme le disait mon frère John, donc voir dans quelle manière encourager les partenariats publics-privés. Donc, nous avons vu ici, par exemple, à Goma, où il y a un partenariat entre le pétrolier et le gouvernement du Nord Kivu, et on a construit les routes. Donc c'est possible toujours de penser et de penser grand. Et moi, j'approuve l'idée que nous pouvons d'abord commencer. La RDC ne manque absolument de rien, nous avons tout. Il suffit seulement d'avoir des gens qui sont conscients, qui peuvent arriver à pouvoir développer des secteurs plus innovants qui vont aider le pays à se développer. Et je crois que c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut commencer. Si on doit attendre, on attend quoi? Et on sait que dans tous les autres pays, se développent avec beaucoup de difficultés, on le sait. Donc le développement ne vient pas comme on peut le penser aussi facilement. Donc il faudrait toujours commencer et voir dans quelle manière on peut mettre des batteries en marche pour surmonter les obstacles. Parce que les obstacles, ça ne manque pas dans le cas des gens de ces projets. On sait qu'il y a toujours des obstacles, mais on doit réfléchir sur comment on essaie de travailler sur ces obstacles et sur les risques. Ça fera quand même du bien de parler de la RDC, un pays où on sait qu'on peut avoir un tel projet. C'est une fierté pour nous, les Congolais. Donc pour nous, moi, je pense qu'on peut toutefois quand même encourager le gouvernement à réfléchir sur des projets qui peuvent aider surtout à donner de l'emploi à la jeunesse, à toutes ces personnes qui souffrent dans ces pays. Et nous pouvons commencer déjà maintenant et le gouvernement saura toujours comment surmonter ces obstacles. C'est ça mon idée par rapport à ce thème.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Prince de South Folk de Fally Upupa et on revient juste après.
Le prince de South Folk, Luke Wing Temuni. Comment on a dit que c'est une autre langue qui m'a cherché? Komona ngabi banga banga te Komona ngaki zengi na yote Kemuni Waga moto Oyafaka ni kaka Riboto kumala likamo Likewi Monoko nangesa libebe Kemuni Monoko nangamu anamoke Sana makati se ya butai o bolivu na mokolo moko Otika changu leka leta ereme gatu likewi Arno Technologie Alain Baka La merveille se déchaîne. Totika tchampi leka, leka, ereme gatu, likewi. Dinde ikusevi, emani panzu papa na nubia.
Na kufeli valingo pa,
niya wili mulo wa.
Na kufeli valingo pa,
na kufeli valingo pa,
na kufeli valingo pa, na kufeli
Sans C'était Prince de South Folk de Fally Ipupa, contenu dans son tout premier album Droit Chemin. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Gomba, journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa, Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu et les présidentes de l'association Dynamique des Femmes et Juristes, DFJ en sigle, et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Saouti Amama Mukongomani, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Au moins 7957 déplacés des villages MPC et Molossi vivent depuis plus d'une semaine dans une situation humanitaire précaire au pont Kwango à Lonzo, à Bukangalonzo secteur et environ dans les territoires de Kenge, province du Kwango. Selon la société civile provinciale et la notabilité du Kwango, ces personnes sont issues de plus de 100 ménages. À Ituri, depuis environ 9 mois, les déplacés du site de Kingonze à Bunia disent n'avoir reçu aucune assistance alimentaire et non alimentaire. Ces personnes qui ont fui violence et atrocité des groupes armés dans les territoires de Djougou ont dit manquer de tout. Pour rappel, au mois de juillet dernier, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, avait plaidé pour une mobilisation en faveur de l'assistance humanitaire en RDC. Ces hauts fonctionnaires de l'ONU avaient estimé qu'il fallait plus de moyens pour répondre aux besoins des communautés en attendant le rétablissement de la paix dans ces entités. Madame Nelly Mbangulumbulumbu, vous avez souhaité développer ces sujets relatifs à la situation des déplacés internes dans les sites en RDC et plus particulièrement la situation des femmes et des enfants. On vous écoute.
Merci beaucoup Guy Maté. En fait, j'ai choisi ces thèmes parce que d'abord je suis activiste des droits de l'homme. Je travaille pour les respects et la dignité de la personne humaine. Et je voudrais dire ici, c'est vrai, la coordination humanitaire ou l'équipe humanitaire pays dans lequel j'appartiens en tant que membre du pool de soutien a organisé plusieurs activités de plaidoyer au niveau international afin de démontrer la difficulté ou la crise humanitaire et toutes ses conséquences sur les personnes civiles. Et je vais dire ici aujourd'hui que, comme vous le savez, je sais que vous connaissez des incidents de protection qui ont lieu dans la province du Nord Kivu et partout. Je voudrais plus qu'on aborde la question de manière globale en parlant de tous les sites de déplacés internes au niveau de notre pays. S'il faut parler de la province du Nord Kivu, nous savons que, par exemple, nous avons des incidents de protection qui sont rapportés par les acteurs humanitaires et qui font en fait état de plusieurs personnes victimes de violences sexuelles basées sur les genres, des enfants qui sont en difficulté pour aller à l'école, donc dans une situation où elles ne peuvent pas avoir l'éducation. Nous avons aussi des familles, plusieurs familles, et je vais parler, plus de 256 000 enfants qui souffrent de la malnutrition. Et nous savons aussi que, toujours dans ce contexte, nous pouvons aussi parler autour des personnes touchées par le choléra, donc autour des 22 000 personnes qui ont été touchées par le choléra. Donc on voit en fait une difficulté énorme par rapport même à l'assistance, à l'aide humanitaire qui est donnée. La fois passée, la coordination humanitaire a essayé quand même de donner une aide à plus de 910 000 personnes. Donc vous vous imaginez, si on est à 3,3 millions de personnes déplacées et qu'on parvient seulement à donner l'aide à 910 000 personnes, ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population déplacée interne qui ne peut pas accéder à l'aide. Cette situation est une situation aujourd'hui qui, en fait, amène les populations déplacées internes à se retrouver dans une très grande vulnérabilité. Où aujourd'hui, on sait qu'il y a des femmes qui peuvent donner leur corps pour avoir à manger. C'est une aberration pour notre pays.
Madame Nelly Mbulumbu, vous qui êtes au Nord Kivu, qu'est-ce qui peut expliquer cette faible assistance à l'endroit de ces personnes déplacées?
D'abord, il faut dire le nombre de déplacés et l'appui qui est faible. Au niveau de notre pays, on sait aussi que le gouvernement ne donne pas vraiment beaucoup, comme je ne vais pas dire ne donne pas beaucoup d'importance, mais je vais dire que le gouvernement ne travaille pas sur tous les ministères des affaires humanitaires. On ne voit vraiment pas ses actions pour aider ces déplacés. Mais on peut dire aujourd'hui le nombre qui est assez grand, le nombre qui est énorme, et nous ne voyons pas une seule ou alors même pas une seule aide qui peut arriver à surmonter tous ces défis qui se retrouvent dans les sites déplacés. Donc il y a toutes ces difficultés-là Il y a la question de la protection, je voudrais l'aborder aussi, Dimaté. Il y a des femmes qui, aujourd'hui, qui sont dans les camps de déplacés, mais qui se font violer dans les camps de déplacés. Pourquoi? Parce qu'il y a des abris, par exemple, qu'on a donné il y a très longtemps. Donc, l'aide est vraiment très minime et on voit, quand on parle, par exemple, de ce qui se passe à l'Ukraine, moi, j'ai essayé de suivre ce qui même se passe aujourd'hui au Maroc avec les inondations qui ont eu lieu. On a vu quand même qu'il y a des gens qui viennent déjà au secours de ces populations-là. Donc, la crise de la RDC, c'est une crise qui est vraiment orpheline. On voit vraiment que tout le monde ne veut vraiment pas s'occuper de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourtant, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Les femmes souffrent, les enfants souffrent. Les gens les savent même dans les zones de retour, parce qu'il y a des déplacés qui se sont décidés de retourner chez eux, malgré la situation. Mais dans les zones de retour aussi, on sait qu'il y a des besoins, mais il n'y a pas l'accès, parce que par exemple, les M23 n'acceptent pas qu'il y ait de l'aide, qu'il y ait ce couloir qu'on peut ouvrir pour aider les déplacés, ou plutôt les retournés qui sont rentrés à Rutshuru. Donc il y a toute cette situation que nous pouvons présenter de cette manière pour dire que la situation, la crise humanitaire aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est vraiment une crise qu'il faut regarder avec un œil, avec beaucoup d'attention, parce que nous risquons d'enterrer les gens. Les gens meurent ici à cause de la faim, les gens meurent ici à cause des viols, des violences sexuelles, les femmes, les enfants. Et si vous arrivez à Goma, vous allez voir des enfants qui circulent la rue, toutes les rues de la ville de Goma en demandant. Nous pensons qu'il faudrait quand même arriver à trouver une solution par rapport à cette situation.
Merci, Louis Magloire Kemayou. Ce phénomène est constaté dans la plupart des pays africains. À votre avis, quelle stratégie faut-il mettre en place pour riposter efficacement lorsqu'un pays fait face à ces phénomènes de déplacés internes?
Je crois que le premier constat qu'il faut effectuer, c'est que quand dans les pays dits développés, il y a des situations de crise, qu'elles soient humanitaires ou pas, le gouvernement a la capacité d'aller, par exemple, augmenter son droit de tirage et pallier la situation. Ce sont des mécanismes qui existent. L'État peut s'impliquer parce qu'il en a les moyens. Il peut trouver ses moyens auprès de la Banque centrale, il peut les trouver auprès du FMI, et ça lui permet d'avoir une marge d'action beaucoup plus importante. Pourtant, c'est pas toujours ce qui se fait. La crise économique, plusieurs crises ont secoué le monde ces dernières années et ont diminué la capacité d'intervention des gouvernements. Et les gouvernements qui en sont les plus grandes victimes, ce sont les gouvernements des pays les moins développés. Et donc, quand il y a une crise humanitaire chez nous, due à une situation de guerre qui vient s'ajouter à une situation socio-économique déjà pas très enviable, l'État n'a presque pas de marge de manœuvre. Il peut compter sur la solidarité des uns et des autres, mais comme disait Oufouet Gouani, on partage la richesse, on ne partage pas la pauvreté. Et la plupart du temps, les gens qui sont les riverains de cette situation de crise n'ont pas de richesse à partager. Et on peut avoir l'impression qu'ils ne sont pas généreux, mais c'est qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Et l'État non plus ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. À côté de cela, vous avez des foyers de crise qui sont nombreux aujourd'hui et qui font que la plupart du temps, les gens éteignent le feu auprès d'eux pour que leur maison ne brûle pas. Mais si l'incendie est à plusieurs milliers de kilomètres, il n'a pas le même intérêt. Donc malheureusement, ce phénomène fait que nos pays n'ayant pas de moyens et les autres n'étant pas intéressés par ce qui se passe chez nous, nous nous retrouvons presque pris au piège. Et la seule réponse qui peut être apportée, la seule réponse durable qui peut être apportée, c'est de développer davantage nos économies afin que les populations puissent elles-mêmes se prendre en charge par moment, quitte à ce que l'État vienne ajouter quelques gouttes d'eau pour améliorer la quantité qui est disponible pour les uns et pour les autres. Mais aujourd'hui, la question du développement est plus que jamais cruciale. Il faut développer à la base, et une fois que la base sera développée, l'effet de ruissellement se fera suivre, puisque l'État lui aussi aura davantage de moyens et de marge d'intervention pour intervenir en cas de crise à l'intérieur de ses frontières ou à côté.
Merci John Ngumboa. On ne voit pas assez la présence, n'est-ce pas, du gouvernement congolais dans les sites des déplacés. Est-ce qu'on peut dire que la RDC n'a pas pu tirer les leçons de toutes ces longues années des conflits armés pour se préparer, n'est-ce pas, à faire face à ces types de crises?
Oui, hein, c'est vrai, le gouvernement de la RDC
a un vrai défi. En fait, j'allais pas le gouvernement, mais l'État congolais a un réel défi, c'est-à-dire celui de prendre en main le pays. Et quand vous allez dans l'arrière-pays, de manière générale, il y a des gens qui sont très loin des services de l'État, très loin, et de l'administration publique, ils en sont éloignés. Et donc, dans un contexte comme celui-là, ne soyons pas étonnés lorsque il y a une crise humanitaire, que les services de l'État soient non plus absents. Donc, l'État aujourd'hui doit s'approprier sa souveraineté qui est de contrôler les territoires nationaux, aussi bien pour sécuriser les citoyens que pour d'autres services qui concernent la vie de tous les jours de chaque Congolais. Alors pour ce qui concerne le domaine humanitaire, bon, moi je pense qu'il y a un déficit réel ici dans notre pays. On s'est rendu compte que l'humanitaire est beaucoup plus le domaine presque dévolu par le gouvernement ou par l'État à des acteurs internationaux. Et le gouvernement congolais, lui, quand il intervient, c'est dans une portion tellement congrue qu'on se pose parfois la question de savoir est-ce que ces gens-là se sont-ils les bénéficiaires ou les victimes sont-ils des Congolais ou pas. Donc il y a un vrai problème. Et lorsque parfois le gouvernement le fait, il y a une théâtralisation à outrance qui, moi, me surprend souvent aussi. Et est-ce qu'on a besoin de voir toutes ces caméras, toutes ces photos autour des actes somme toute ordinaires d'un gouvernement au bénéfice de sa population où on a fait une publicité outrancière? Donc il y a un vrai problème en ce qui concerne les rapports que le gouvernant congolais a avec les citoyens congolais. On dirait que chaque fois que le gouvernant intervient, ça devient domaine de publicité. Et ça sous-entend que, en réalité, chaque acte posé par le gouvernant est une forme de don, d'avantage donné aux citoyens. Ce qui est tout faux, quoi.
Merci. Nous terminons cette émission par là. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, Monsieur John Ngomboa, Monsieur Louis Magloire Kimayou. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et des DFC Vita sous la supervision d'Alexis Sommet, des Martin et Sébou Jangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Adieu Léa, des Papy Tex, sorti en 1993 dans l'orchestre Empire Bakuba de Pépé Calais. Et on se retrouve le samedi prochain.
Fa nani, alingela langa bana langa. ayo ninge onaki mambo nako somba somba wapi nako somba somba wapi nako somba somba taloni ayo miwa ya hale ya mama.
Yeah.